Il est 19h sur BAC FM 106.1, bonsoir et bienvenue dans les coulisses de la formation, l'émission où on n'a pas peur de parler de vie pro et de présenter des filières. Aujourd'hui on met en lumière nos filières numériques, du bachelor concepteur de systèmes d'information au master manager de solutions digitales and data. Si comme moi vous n'avez rien compris, eh bien félicitations, vous êtes au bon endroit. On va aussi passer par la troisième année de dev, alors je suppose que c'est pour développement web full stack, j'espère ne pas dire de bêtises. Objectif, comprendre ce qu'on y apprend et comment on s'insère au niveau local dans ces filières. Autour de la table et avec moi, je reçois Jérémy Macadré. Alors, bonjour. Déjà. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais moi j'ai trouvé que tu as donc un bachelor et un master en alternance des solutions holographiques, et aujourd'hui tu es le cofondateur de Glowsoft.
Alors, une petite rectification sur le bachelor holographique.
Oui.
J'ai fait un bachelor au CS2I classique, donc développeur, enfin manager de solutions digitales et data. Mmh. Et j'ai effectivement effectué en alternance dans une entreprise qui propose des solutions holographiques à ses clients, et donc c'est là-bas que je me suis formé en alternance, en plus de mon école.
Ok, bah parfait. J'ai avec moi Baptiste Fuseau, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors pareil, tu me corriges, donc j'ai trouvé que tu as un bachelor et un master en parcours, en agence, pardon, à Nemesis Studio et projet SEO e-commerce pour PêcheTech.
Oui, c'est ça.
Ok, tu as également co-lancé Proj Octopus, je sais pas si c'est la bonne prononciation.
Oui, c'est ça, exactement.
Parfait, et bah bonjour et puis merci d'être avec moi. Et Ethan Ménager, du coup. Bonjour. Bonjour, BTS SEO, tu es aujourd'hui en troisième année de bachelor développement web.
C'est ça.
Et tu as monté NoviaCode.
Oui.
Pour donner des cours de Python.
Pas que de Python, il y a aussi du Scratch, il y a aussi du, on appelle ça Microsoft MakeCode, et du Minecraft Education.
Donc des cours de programmation, si c'est le meilleur terme.
Voilà.
Et bonjour. Pour et donc, résumer. Enfin, Valérie Delmotte, bonjour également, directrice du pôle enseignement supérieur sur le campus by CCI de la Nièvre. Merci d'être avec nous.
Bonjour Maxime.
Alors, émission un petit peu vaste, pour qu'on plante un peu le décor, ce que je vous propose, c'est que vous présentez un peu chacun vos activités, pour comprendre un peu ce que pour nos auditeurs, voilà ce que vous faites.
Et donc moi, j'ai lancé une entreprise il y a quelques semaines avec donc deux de mes anciens camarades d'école. Donc on a fondé une entreprise de développement d'applications web principalement. On développe toutes sortes de solutions, des logiciels, donc des applis web, des sites internet. En fait, on développe toutes sortes d'applications. Nous, notre avantage, c'est qu'on utilise beaucoup les outils d'intelligence artificielle pour fonder nos logiciels et créer nos logiciels, ce qui nous permet d'avoir des temps de développement très courts.
Alors les gens, peut-être que quand ils entendent IA, ils pensent à des IA génératives. Moi, je pense direct à ChatGPT, par exemple, ou DALL-E. C'est à ça dont tu fais référence?
Alors en fait, nous, on a deux pôles lorsqu'on utilise les intelligences artificielles. Donc on utilise une première part des intelligences artificielles pour nous aider à développer. Donc on va avoir comme un deuxième développeur avec nous qui regarde constamment ce que l'on fait, comment est-ce qu'on développe, si on le développe bien ou mal. Mmh. Et on utilise des outils d'intelligence artificielle dans nos logiciels pour, par exemple, proposer des cas d'usage à nos clients. Donc si un client, par exemple, il reçoit des mails et il veut que ces mails soient traités automatiquement par de l'IA, on propose ce genre de solution.
Alors ouais. Moi, c'est une société de développement web sur mesure.
Okay.
Donc ça peut être un simple site internet, site vitrine pour les artisans, comme une application complexe pour même des industries, où ce sera beaucoup plus pointilleux. Et c'est vraiment en fait le mot-clé de ma société, c'est le sur-mesure pour le client. Donc tout est possible après dans le web, enfin il y a des limites, mais en général la limite c'est la valeur monétaire. Donc
comme tout dans ce monde.
C'est ça. Donc après nous on se met pas de barrière. S'il y a un besoin on peut chiffrer, mais après c'est au client de décider. On va vraiment pas vendre quelque chose juste pour le vendre. C'est vraiment l'accompagner et vraiment répondre à son besoin au mieux possible.
Et ça s'appelle, pardon ?
Projet Octopus.
Et donc, pour terminer cette petite série de présentations.
Alors moi, du coup, j'ai créé NoviaCode en juillet 2024. Je propose de base, c'était pour les enfants en IEF. Ce sont les enfants qui font école à la maison. Je l'ai été, du coup, dans le cadre de mon BTS SEO, parce que je l'ai réalisé au CNED. Et très vite, ça s'est développé aussi pour les enfants qui sont aussi à l'école, comme tout le monde. Donc, les horaires sont disponibles le soir, donc c'est disponible pour tous les élèves, et ça touche tout type de programmation, donc aux plus débutants, Scratch, aux plus avancés, Python, et puis après c'est un peu notion de divertissement, que ça soit du coup en MyCode ou sur Minecraft.
Quand tu parles d'élèves, ça va de quelle tranche d'âge?
Ça va de le plus jeune que j'ai eu, c'était peut-être 7 ans, jusqu'à, je vise 18 ans, mais pour le moment le plus âgé c'était 16 ans.
Ah oui, donc en fait on peut apprendre à coder même quand on a 7, 8 ou 9 ans,
quoi. Oui, oui.
Ok, c'est trop
cool. J'ai des enfants qui sont très jeunes et qui me proposent des choses impressionnantes.
T'as des exemples?
D'un élève, ouais. Oui, j'ai par exemple, alors je peux citer son nom?
Ouais, bien sûr. Alors,
j'ai Austin, qui habite à La Réunion, et qui a démarré la programmation sur Scratch, et qui m'a très vite montré des choses très impressionnantes, que ce soit pendant mes ateliers ou hors de mes ateliers. Il est vite monté en compétences, et ça m'a beaucoup impressionné, c'est vrai.
Scratch, pour nos auditeurs, c'est cette application avec le chat, je crois, orange.
Oui,
on peut apprendre à coder.
Mais avec des blocs.
Avec des blocs, voilà. Alors, votre point commun à tous, c'est que vous avez été sur le même campus, c'est ça que j'ai cru comprendre, en fait, sur le campus CCI. C'est le nom. C'est le nom.
Alors, plus exactement, le campus Baille-Cécinièvre.
Baille-Cécinièvre.
Et encore plus particulièrement sur notre école d'informatique CS2I Bourgogne.
Alors, on vient d'entendre toute une série de projets innovants, en fait, j'ai envie de dire. C'est quoi votre regard, Valérie Delmotte, sur tout ça?
Et encore, là, ils ne nous ont pas tout dit, puisque ils ont des particularités de par leur parcours. Baptiste, dans son offre, va proposer au niveau du référencement des choses très intéressantes pour les sites internet. Hein, mm-hmm. Tu pourras préciser, Baptiste, mais d'expérience qui a permis à des structures de pouvoir apparaître très vite sur les pages de recherche. Et puis, Jérémy et son camarade Antoine, qui n'est pas très loin, qui ont travaillé dans une entreprise où, du coup, ils ont pu mettre en place en fait, toute une partie holographique.
Donc, holographique, pour nos auditeurs, c'est qui relève de l'hologramme. Voilà, donc c'est une espèce de figure virtuelle, j'ai envie de dire. Comment tu le définirais?
Exactement. Alors, en fait, c'est une illusion d'optique. Ouais. C'est qu'on va mettre en place des procédés qui donnent l'impression que l'image flotte dans le vide, dans les airs. Ouais. Mais ça relève principalement de l'illusion d'optique. Un hologramme, c'est quelque chose qui vole un peu comme Tony Stark, mais bien sûr c'est un peu moins impressionnant que ceux de Tony Stark, bien sûr, hein, mais on est sûr.
Je me rappelle, mais tu m'arrêtes si je me trompe, je me rappelle de Jean-Luc Mélenchon qui avait fait un meeting comme ça il y a 10 ans, je crois, en 2017, avec en 3 villes en même temps.
Exactement.
Me semble-t-il. Ok, donc c'est voilà, Tony Stark, Jean-Luc Mélenchon, on en cite des références dans cette émission. Donc, ton entreprise à toi, c'est Glowsoft, c'est ça?
Exactement.
Est-ce que t'as un projet en particulier concret que tu voudrais... Alors, tu viens d'en citer un, mais est-ce que t'en aurais d'autres, par exemple, pour que nos auditeurs situent un peu mieux ce que tu fais?
Ouais, actuellement, on est en train de développer un Doctolib, mais pour le Maroc, qui est moins axé sur la santé, mais qui est plus axé sur les soins de la personne. Donc, vous avez besoin d'une réservation pour un coiffeur ou pour une manucure. En fait, tout passe par ce site-là, du paiement à la réservation. Et donc, c'est l'un des plus gros projets qu'on a actuellement avec, du coup, des clients marocains.
Toujours à base d'IA?
Il y a de l'IA qui va arriver dans la troisième partie de ce site internet, mais tout d'abord, il faut déjà concevoir une base solide sans mettre de l'IA. Et dès que tout est fonctionnel, on proposera des outils d'intelligence artificielle dessus, que ce soit pour les établissements qui proposent des services, comme pour des utilisateurs qui ont une demande spécifique et savoir quels besoins ils auraient à travers ce site-là, quoi.
Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été sur le même campus. Alors, question peut-être un peu traître, puisque il y a une supérieure à la table, mais vous diriez qu'est-ce que vous avez appris principalement comme compétence qui vous a le plus aidé, en tout cas dans vos différents projets?
Moi, en tout cas, je sais que personnellement, on a eu ce qu'on appelle des formateurs qui viennent d'un milieu déjà professionnel. Mmh. La plupart de ces formateurs avaient déjà, eux, soit des auto-entreprises, soit même des entreprises. Et donc, en fait, en échangeant avec eux, on a eu un regard où on s'est dit que c'est possible de le faire aussi, nous. En fait, c'est pas des gens qui sont surhumains, c'est des gens qui ont tout simplement osé le faire. Et de par ces échanges-là, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai été motivé pour ouvrir ma structure aussi.
En fait, ce qui est bien aussi avec ces formateurs, c'est qu'ils ont déjà eu des cas concrets clients dans leur vie. Et en fait, ce qu'ils aiment bien, je pense notamment à deux intervenants, ce qu'ils aiment bien, c'est de nous poser des problèmes qu'on n'aura jamais dans notre vie parce qu'ils sont tellement compliqués. Et en fait, quand on se casse les dents sur ces problèmes-là, quand on arrive dans la vie active, dans la vie active avec des vrais clients, ça paraît tout de suite plus simple et c'est plus facile à gérer. Mais sur le coup, on se casse un peu les dents. Quand on nous demande de certains exercices, c'est très compliqué.
C'était quoi le nom exactement du master et du bachelor, pour être tout à fait précis avec nos auditeurs?
Alors le master, c'était le MS2D à l'époque, donc manager de solutions digitales et data. Et le bachelor, c'était CSI, ouais, concepteur de systèmes informatiques.
Sachant qu'ils ont évolué tout dernièrement, puisque le bachelor concepteur de système d'information s'est séparé en deux. Une partie beaucoup plus orientée cyber et puis une développeur web full stack sur laquelle Ethan est positionné. Le master, là, a quitté la dimension IoT pour aller plus sur une partie...
IoT, excusez-moi.
Objets connectés. En fait, les objets connectés.
Les objets connectés, ok.
Pour aller vers une... toute une partie d'architecture logicielle, cloud computing, mais en gardant sur la troisième année la partie big data. Donc des spécialistes pour des entreprises qui peuvent avoir alors un petit projet ou un projet plus important.
Moi j'avais une question pour tous les trois, on l'a déjà un petit peu abordé dans cet entretien, mais c'est sur l'intelligence artificielle, c'est le gros sujet quoi, d'actualité. On en parle depuis longtemps, j'ai cité l'intelligence artificielle générative, mais il y en a plein d'autres en réalité. Bac FM, c'est une radio culturelle, donc on reçoit beaucoup d'acteurs culture qui nous disent qu'en fait c'est un danger pour leur métier principalement, je pense... à nos amis comédiens de doublage notamment, mais pas que. Pour vous, l'IA dans votre quotidien et dans votre travail professionnel, j'ai envie de dire, ça se manifeste comment ?
Alors l'IA dans tout ce qui est développement, etc., elle arrive très très vite. C'est vraiment... c'est une rapidité impressionnante. Et en fait, alors moi je l'utilise tous les jours, l'IA, notamment ChatGPT, Cloud Code, etc. Et je pense qu'il faut vraiment l'utiliser, apprendre à l'utiliser, parce que l'IA, ok, elle peut nous remplacer dans quelques années, enfin dans plusieurs années même, je pense. Mais ce qui peut vite nous remplacer, c'est les autres personnes qui utilisent l'IA. Donc il ne faut pas avoir peur de se former et de bien savoir l'utiliser, parce que sinon on ne le fait pas, il y a quelqu'un qui va le faire et qui va prendre notre place dans... quelques mois peut-être. Donc vraiment, faut pas trop avoir peur, mais c'est plutôt une aide, parce que quand on voit qu'il y a des tâches qu'avant on pouvait mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à faire, alors que maintenant en une après-midi ça peut être fait, moi je prends ça comme un gain de temps et j'hésite vraiment pas à l'utiliser. Après, faut faire attention hein, parce que ça peut être utilisé, il peut y avoir plusieurs fausses informations, des applications qui peuvent être faites avec qui sont pas sécurisées, ou peut y avoir des fuites de données à cause de ça. Enfin,
l'écologie.
Il y a aussi l'écologie. L'écologie, c'est aussi un gros point. Après, moi, je l'utilise personnellement. Je l'utilise dans un de mes projets, mais je fais très attention à ne pas l'utiliser à abus pour justement pas trop consommer derrière. Et faut savoir comment ça fonctionne aussi pour l'utiliser. Donc,
tu peux nous en parler de ce projet ou c'est encore trop tôt pour...
Non, c'est un projet, pour l'instant, je le mets à disposition pour certaines personnes, c'est surtout du bouche à oreille. Alors, c'est une application web, en fait, qui nous permet de créer des sites internet et des boutiques en ligne, mais optimisées pour le référencement naturel. Donc, c'est pour les moteurs de recherche... quand vous faites une recherche Google, le but c'est d'arriver dans les premiers. Donc il y a Shopify qui existe, donc c'est le géant américain, mais il n'est pas optimisé pour tout ce qui est recherche Google. Donc moi je me suis dit, je vais faire le mien. Ça fait 2 ans que je bosse dessus et l'IA en fait elle intervient pour aider l'utilisateur. Donc ça va être soit s'il pose des questions par rapport à sa boutique à lui, l'intelligence artificielle va lui donner des réponses très courtes et très orientées sur sa boutique, ou alors pour créer tout ce qui est... description de produits pour donner de la valeur à sa page sans trop embêter les utilisateurs en fait. J'ai essayé de le calibrer pour pas... Enfin, il partira pas dans tous les sens sur cette rédaction.
C'est encore contrôlable.
C'est très contrôlable, oui. Et je fais en sorte de pas trop lui donner de contenu pour pas que lui, il en sorte beaucoup et pour pas trop consommer non plus derrière.
Ok. On n'est pas encore à Terminator où l'IA prend le contrôle du robot. Quoi.
Non.
Ok, c'est cool. Ça nous rassure, en tout cas. Ethan, toi, tu te sers un peu de l'IA dans ton parcours ?
Oui. Je m'en sers tous les jours. Je m'en sers pour des problèmes même personnels. Hein. Mais beaucoup en développement, parce qu'aujourd'hui, dans les logiciels de programmation, je dis ça parce que si je cite le terme IDE, je vais vous perdre. Maintenant, c'est intégré. Ça nous permet de générer le code sans même d'indiquer ce qu'on souhaite. On écrit le début et il nous génère la suite. Voilà. Donc moi, je m'en sers énormément, que ça soit dans mes projets personnels, dans mes projets professionnels. Mais il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas tomber dépendant de l'IA. Il ne faut pas qu'il remplace le travail qu'on est en train de faire, parce que s'il nous génère le code... et qu'on le colle et qu'on n'essaye pas de comprendre ce qu'il nous fait, on n'a pas les compétences nécessaires.
Je crois que sur ChatGPT, c'est une option qui s'appelle Canva, quoi, comme le logiciel de retouche.
Oui,
ouais.
Oui.
On peut aller, parce que moi je me rends pas bien compte, on peut aller loin avec ce genre d'options quoi. Est-ce qu'on peut vraiment coder des trucs très complexes à base d'IA? Je sais pas si vous êtes renseigné un peu sur le...
Alors, de nos jours, il existe maintenant des logiciels qui sont plus accessibles qu'uniquement via l'interface par exemple de ChatGPT. Mm. On utilise des logiciels qui sont spécialisés dans du code, donc comme tout à l'heure a été énoncé Claude Code, qui sont vraiment des logiciels, enfin d'IA, qui s'auto-divisent en multitâches, et donc en fait c'est comme si on avait 5 ou 6 IA qui travaillaient sur le même projet. Donc aujourd'hui, l'IA dans le monde du développement est arrivée à un point extrêmement important, elle est extrêmement forte, permet littéralement de remplacer des développeurs et des équipes entières de développement dans le code en fait. Mais moi, pour revenir sur le sujet de l'IA et des risques, je pense que les métiers techniques, effectivement, ils vont devoir évoluer en prenant en compte du coup l'arrivée de la fameuse IA, parce que dans tous les cas, c'est comme toute grande révolution technologique qu'il y a eu, on n'a pas le choix, elle va être là avec ou sans notre accord. Et donc maintenant, il va falloir apprendre à vivre avec. Et surtout, qu'est-ce qu'on doit lui laisser faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humain, il est très bon aussi dans ce qu'on appelle la créativité. Et donc, il y a des outils d'intelligence artificielle qui génèrent des images, mais qui n'ont pas vraiment d'âme derrière. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais la patte de l'artiste, du peintre ou de l'artiste qui fait de la musique derrière. Et pour moi, ça va être extrêmement important en tant qu'utilisateur d'avoir un regard critique sur ce que l'on va regarder. Ne pas donner trop de crédit à une photo qui a été générée par une IA, et plus essayer de mettre en avant des vrais artistes qui ont créé vraiment de leurs mains les œuvres qu'elles ont voulu créer. C'est pour ça que moi je sépare vraiment le domaine technique et le domaine créatif de l'intelligence artificielle, parce que quelqu'un qui fait du code dans tous les cas, que ce soit l'IA qui lui code ou lui, entre guillemets, qui va effectuer la tâche de créer telle ou telle ligne, c'était déjà voué à évoluer.
Valérie Delmotte, vous, cette espèce de virage de l'IA, vous le prenez en compte dans vos formations?
Oui, ça s'intègre de plus en plus. Comme ils en parlaient tout à l'heure, ce sont des formateurs qui sont dans la vie active et qui du coup vont partager également leur propre vision sur cet aspect-là. Donc forcément, ça en fait partie.
KFM, c'est une radio lycéenne. On est à cheval entre trois lycées, lycée Rolf Olro, lycée Jean Rostand et le lycée Jules Renard. Sans doute qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent et qui aimeraient... suivre votre parcours et faire ce que vous faites, si je puis dire. On peut commencer après le bac à venir dans le campus by CCI, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et à parler d'informatique, d'IA, de code, de programmation, ce genre de choses.
Tout à fait. Depuis cette année, alors on a le BTS Ciel qui est positionné, mais surtout on a trois bachelors. Bachelor concepteur développeur web full stack qui peut se réaliser soit après un bac plus 2, soit post-bac. Le bachelor administrateur système et cybersécurité, là aussi, soit post-bac, soit après bac plus 2. Et puis pour ceux qui ont peut-être une fibre à la fois dev, développement web, mais également stratégie digitale, on a là aussi le bachelor chef de projet web et stratégie digitale qui peut permettre d'arriver dès le post-bac sur le parcours.
Alors peut-être pour les lycéens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre ces trois bachelors, si je puis dire?
Alors, celui qui est plus orienté cybersécurité aura une orientation, liée à l'infrastructure. Vous allez, par exemple, ici, vous avez un système avec plusieurs postes informatiques, et du coup, vous allez avoir à gérer l'ensemble. Vous pouvez avoir la même chose en industrie. Donc là, vous allez mettre en place les connexions et puis surtout sécuriser pour qu'on ne puisse pas venir prendre des données ou qu'à un moment donné, même en interne, il y ait une défaillance. Pour le développement web full stack, là, on va vraiment avoir, on en a autour de la table, en fait, des personnes qui sont capables de gérer, de créer un site internet, qu'il soit marchand, qu'il soit plus vitrine, ou des applications qui sont propres à l'entreprise. Et puis, sur la partie digitale, ce sont des personnes qui peuvent travailler en agence ou qui travaillent dans une entreprise et qui ont à intervenir sur leur site internet. Alors, ce ne sont pas des techniciens qui vont créer de A à Z. Ils pourraient, s'ils ont la fibre, mais en tout cas, être capables de mettre les mains dans le cambouis ou en tout cas d'échanger avec des équipes qui vont développer un site web, mais surtout d'avoir la partie stratégie digitale, donc créer du contenu pour les réseaux sociaux, créer, en fait, travailler sur
les communications, quoi.
Voilà, tout à fait.
Ma prochaine question, elle est pour vous tous, à vrai dire. Je me demandais s'il y avait un mythe sur la filière numérique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, que vous vouliez démonter du type il faut être matheux, quoi, ou alors il n'y a pas de débouché en local, voilà, genre de choses, quoi.
Oui, on n'apprend pas à hacker.
c'est un truc que tu entends un peu?
Oui. Souvent, quand on parle d'études en informatique, on dit oui, on va apprendre à hacker.
Moi personnellement non, mais l'image populaire du hacker, c'est le mec en chapeau avec la capuche, oui. Les lunettes. Donc non, en fait, on est assez loin de ça, quoi.
Non, c'est. On n'apprend pas à hacker. Il y a différents moyens. On va éviter peut-être en citer. Voilà, mais non, c'est le hacking comme on voit dans les séries, c'est faux.
C'est très clair. C'était pile ma question d'ailleurs. Est-ce que on peut faire un peu de programmation, toi qui connais un peu le sujet, sans être un dieu des maths, ou est-ce que quand même c'est deux sujets qui sont assez proches, quoi?
Oui et non. Il y a des choses qu'il faut quand même des maths, en vérité, hein, notamment des calculs, que ça soit après des applications de compta, c'est obligatoire. Mais par défaut, pour programmer quelque chose d'assez simple, c'est pas forcément nécessaire. Mais il y a des choses quand même, il y a des notions à apprendre, notamment, je prends un exemple des coordonnées, des choses comme des fonctions, oui, c'est important.
En fait, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être matheux pour développer, il faut juste être logique. Parce que sans logique, on n'arrivera pas à se retrouver, même dans le code qu'on crée, ou même à comprendre ce que l'ordinateur va faire alors qu'on veut lui faire autre chose. Donc, faut un aspect logique surtout, pas besoin d'être un dieu des maths.
Tout dépend aussi du secteur dans lequel tu diriges. Effectivement, dans le développement web, on en a moins besoin, mais par exemple, si vous êtes passionné par les jeux vidéo, typiquement dans le secteur des jeux vidéo, on a vraiment besoin des mathématiques, pour que ce soit par exemple les coordonnées, dans l'espace 3D, les vecteurs, les choses comme ça, c'est très important. Mais dans tous les domaines de l'informatique, on n'a pas besoin d'être un dieu en maths, ça c'est sûr.
Est-ce que vous avez des conseils pour les lycéens et lycéennes qui nous écoutent, qui aimeraient faire votre formation ?
Pour moi, c'est la curiosité. Le principal truc, c'est qu'il faut être curieux, il faut aimer toucher à peu près à tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de domaines en informatique qui sont très divers et variés. Et pour moi, il faut connaître un peu tous ces milieux, mais par curiosité.
Et après, la curiosité, il y a aussi la diversité. Et à Campus ICC, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a des bases dans à peu près tout. Et après, si on veut pousser plus ces bases, alors il y a des cours dans le master qui vont les pousser, mais on a la simplicité en fait de repousser en se formant après de nous-mêmes sur Internet. Donc ça donne de très très bonnes bases.
C'est vrai que le profil des étudiants sur CS2I Bourgogne, c'est vrai que c'est être cette curiosité et cette envie d'apprendre, parce que forcément on va leur donner des éléments, il va falloir qu'ils aillent ensuite, suivant les entreprises il y aura des langages différents, il faut qu'ils aient cette curiosité, et c'est ce qui fait aussi à mon avis le fait que à l'issue du parcours, on en a quand même pas mal qui créent leur propre structure, parce que de fait, je pense qu'il y a ce lien entre cette curiosité, cette autonomie, capacité à apprendre, et finalement capacité à créer sa propre activité. C'est pas le cas pour tous, mais il y en a quand même énormément sur cette filière-là qui vont s'orienter ensuite sur la, soit en parallèle à un travail, soit carrément en auto-entreprise, créer leur activité.
Vous parliez de profil, finalement vous avez trois activités différentes. Il y a un profil type quand même pour suivre? Non, il n'y en a pas, quoi. On peut être passionné tant que ça reste en lien, du moins avec l'informatique.
Oui. C'est vraiment ouvert. Alors, c'est ouvert aux filles aussi. Hein.
C'est très masculin, c'est intéressant.
Alors après, est-ce qu'à un moment donné, elle s'auto-censure peut-être aussi? Mais en tout cas, c'est vrai que... Alors cette année, on a une étudiante qui est rentrée sur la première année de bachelor. Nous avons également une étudiante qui est sur le master. Voilà, donc en fait, c'est ouvert à tout public, mais on se rend compte que peut-être il y a encore des préjugés sur cette fonction.
Alors qu'en fait, il n'y a aucune raison valable, quoi, si ce n'est... voilà, ok. Alors, moi, je voulais revenir, pour la petite présentation, sur vos différents réseaux à chacun et où on peut retrouver vos différentes activités. Est-ce que vous voulez indiquer une page où on peut retrouver?
Alors après, je pense que nous, dans notre secteur, c'est plus LinkedIn. Après, LinkedIn, c'est chacun poste comme il veut en soi. Donc, moi, par exemple, je sais que je ne vais pas poster toutes mes créations sur LinkedIn parce que j'en ai pas... Alors, pas que j'ai pas le temps, enfin, c'est que je prends pas le temps, mais j'ai pas forcément le besoin ou l'envie de tout poster. Donc, après, pour mes créations, moi, quand je vois des clients, je leur expose mes créations si jamais ils ont besoin d'en voir plus. Mais pour l'instant, j'expose pas tout ce que je fais.
En tout cas, on peut te contacter sur LinkedIn pour en savoir plus.
Sur LinkedIn ou même par mail, enfin via mon site internet, etc. Après, voilà, Baptiste Fuseau sur internet, ça se retrouve très vite. Donc LinkedIn, je pense que c'est le plus rapide, entre guillemets, vu qu'il y a toutes les infos.
Et si on veut apprendre à coder sur Minecraft, comment on fait?
On tape NoviaCode sur Google, on tombe, c'est le premier lien. Et puis sur Instagram, sur Facebook, NoviaCode ou NoviaCode France. Puis pareil, sur TikTok aussi, on est trouvable.
Par curiosité, pourquoi NoviaCode?
Parce qu'on a mélangé innovation et code.
Simplement. C'est d'une simplicité rare.
Et moi, pareil, LinkedIn, en tapant Glossoft ou mon nom, donc Jérémy Macadré. Et sinon, on a aussi un site internet, donc le même nom, glossoft.fr. Et puis, pareil, nous, sur LinkedIn, on essaie d'exposer le plus possible nos créations. Voilà.
Valérie Delmotte, l'autre jour, à Bac FM, on a reçu Christophe Lasserre qui est venu nous parler du Salon de l'enseignement supérieur. Je suppose qu'on peut vous retrouver un stand en janvier prochain.
Tout à fait, le 15 janvier prochain. Et puis nos prochaines journées portes ouvertes, le 6 décembre, sachant que nous avons des étudiants qui sont présents durant ces journées portes ouvertes pour pouvoir répondre aux questions des personnes qui viendront nous visiter.
Le 6 décembre, est-ce qu'il y a des inscriptions ou des choses comme ça? On peut venir Ouais. Ça se trouve où, le campus?
74 rue Fédère, à Nevers. Donc, vraiment, grand parking. Facile pour se garer, pour venir nous voir 9h, 13h. Et il y aura d'autres journées portes ouvertes qui seront programmées.
Le message est lancé. Chers auditeurs, cette émission elle est maintenant terminée. Mais la soirée, elle, ne fait que commencer. Alors, restez à l'écoute de Bac FM, la radio qui va haut et fort.